Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'éducation sexuelle des enfants d'Internet, une série d'Ovidie réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a une ancienne actrice et réalisatrice de films pornographiques devenue documentariste qui s'interroge sur le manque d'éducation des ados exposés aux images pornographiques, au harcèlement numérique et aux sollicitations en tout genre, souvent sans que les parents n'en sachent rien. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste qui veut agir et qu'on empêche, un préfet motivé, une proviseure les yeux ouverts, des parents isolés, des ados qui tâtonnent et une intervenante qui temporise. Ensuite, le décor. Angoulême, un collège, des téléphones, des vidéos, les tabous, la méfiance, des kits d'information, des préjugés, des salles de profs, Snapchat, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, premier épisode, on ressort les archives.
La graine de maman. Dans le ventre de maman, il y a deux boules que l'on appelle ovaires, qui contiennent de toutes petites graines que l'on appelle... Alors voilà, c'est les deux trompes, ça s'appelle des trompes, et ici il y a l'ovaire qui sont au bout des trompes, et dans les ovaires il y a les ovules, et ici il y a l'utérus. La graine de papa. Les testicules donnent un liquide qui contient la graine du papa, le spermatozoïde.
Maman m'a dit qu'elle attendait les questions de moi. Mais moi, j'attendais plutôt de son côté qu'elle m'aborde sur ce sujet-là. Alors, je trouve que c'est assez difficile d'en parler avec les parents.
Et votre père?
Papa, je n'ose pas en parler avec lui.
Moi, je préfère l'aborder avec mes parents ou alors carrément avec un médecin ou un psychiatre quoi, au lycée. Mais je sais pas avec le professeur.
J'ai cette année des élèves pour lesquels une forme d'éducation sexuelle ne me paraît pas du tout opportune. Ce sont des élèves qui sont naïfs et je pense qu'on ne peut pas leur imposer, du moins leur proposer, même en cas de volontariat, une éducation sexuelle.
Des adultes largués par le net, par Ovidie et Nathalie Battus.
Est-ce que vous croyez que c'est utile d'aborder les questions de la sexualité? C'est un truc dont vous parlez beaucoup entre vous? Sur 100% de vos sujets de conversation?
Non. 85.
Alors on fait un petit tour. Donc, 30%, 50, 60, 10%, 90 et 20%. Alors la première chose qui est intéressante, c'est qu'on voit bien que c'est pas la même chose pour tout le monde. Quand vous en parlez, de quoi vous parlez en fait? This is your wake up call. We don't have to fall.
A new democracy. Au printemps 2018, j'ai été contactée par la préfecture de la Charente et par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Leur état des lieux était questionnant. Depuis quelques années, ils constataient une nette augmentation des violences sexuelles à l'école, qu'ils attribuaient à la révolution numérique. Avec l'aide de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, j'ai développé une action de prévention à destination des adolescents. Très concrètement, j'expérimente en milieu scolaire une méthode qui consiste à les impliquer dans la création de médias. Au lieu de leur faire subir des discours de prévention, je les invite à produire eux-mêmes leur propre mal pédagogique. Nous nous sommes donné 2 ans pour mener à bien cette mission. Sauf que la première année, tout ne s'est pas exactement passé comme je l'attendais.
Xavier Zervinsky, ancien sous-préfet de la Charente.
Ça correspond à un moment un peu particulier parce que, bien entendu, on était à ce moment-là sur la suite de tout l'épisode MeToo, où il y a à la fois une prise de conscience mondiale et nationale. Mais ça s'inscrit pour moi dans la continuité d'un parcours personnel et professionnel. À ce moment-là, j'étais ma 6e ou 7e année de sous-préfet et j'ai pu mesurer en effet un certain nombre de lacunes avec la démocratisation des smartphones, des outils, l'accès à via Internet, notamment à la pornographie, il y avait tout un pan de violence, parce que ça fait partie de ces violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, qui n'étaient pas prises en compte par la sphère publique. En tout cas, je trouvais pas suffisamment. Les conséquences sur le moyen et long terme, notamment de la... je dirais de l'exposition notamment à la violence pornographique des adolescents, c'est quelque chose qu'on a pu, en tout cas moi que j'ai ressenti sur ces dernières années très fortement, à travers, je dirais, le quotidien de l'activité de sécurité publique dans les départements, ce qui remontait toutes les semaines en réunion auprès des préfets. On a en effet une revue de l'actualité en termes statistiques, mais également aussi en termes factuels, de ce qui se passe dans le département. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ces statistiques, force est de constater qu'il y a une augmentation constante, mais il y a également aussi la réalité, c'est qu'il y a aussi une violence qui s'installe et qui s'amplifie et qui se renouvelle.
Très rapidement, je me suis rendu compte que la tâche allait s'avérer plus complexe que je ne le présumais. La raison ? Un sujet jugé sensible et aussi un CV qu'on me pardonne peu et que j'avais un peu minimisé. De 1999 à 2002, j'ai joué dans des films pornographiques. 20 ans après, on pourrait dire qu'il y a prescription. Pas si simple. Ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est que la mise en place des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective était encore très inégale, malgré les directives de l'éducation nationale. Pourtant, il y a urgence.
Moi, je suis parti du principe que si on n'est pas capable de regarder en dehors du cadre, si on n'est pas capable de prendre par moment quelques risques, si on n'est pas capable de bousculer certains a priori et le confort de certains agents, notamment les fonctionnaires, on ne fera pas bouger ce pays, on ne le fera pas évoluer. C'est un vieux pays, très conservateur, mais il ne flotte pas dans l'astral. Les mœurs évoluent, les technologies évoluent, et donc forcément, nous devons nous adapter. Donc l'accès et la prise en compte de ce dossier, quand je l'ai évoqué, les gens ont dit « mais pourquoi tu t'intéresses à un sujet comme cela ? Il y a plus de coups à prendre, on a bien assez à faire, on a une liste de courses très importante, de toute façon c'est une lubie du sous-préfet, celui-là est un peu plus pénible que la moyenne, et puis le prochain rentrera dans le rang et puis ça sera très bien ». Moi, je pense que c'est ça notre travail, c'est faire aussi bouger les lignes.
On a rendez-vous avec Madame Lou.
Pour intervenir en milieu scolaire, il faut d'abord obtenir l'accord de l'éducation nationale.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien ?
La proposition du sous-préfet n'était possible que si j'obtenais ce précieux sésame.
On monte dans mon bureau, je ne sais pas si. Après, c'est sur votre gauche.
Béatrice Lehoux, conseillère technique à la direction départementale de l'éducation nationale.
Il y avait la phase visible, c'était par exemple en termes disciplinaires, des portables sur qui avaient circulé avec des films pornographiques. Il y avait le langage des enfants, les conduites des jeunes entre eux qui nous laissaient bien comprendre qu'il y avait un accès à la pornographie qui venait dicter leur conduite. Il y avait une montée en puissance des actes de violence liés à une sexualité, à la sexualité, à l'accès à la pornographie, notamment aussi dans le harcèlement entre filles et garçons. Il y a aussi l'évolution de l'âge. Et on a vu arriver de très jeunes enfants, des enfants de 6e, jusque-là qui étaient quand même peut-être pour nous, c'était beaucoup plus épisodique. Et là, oui, on l'a vu monter en puissance. On a même encore à la marge des situations qui nous interpellent sur des enfants du primaire. Les cours moyens, CM1, CM2, enfin les CM2 surtout, cycle 3. Et là, oui, ça devient assez flagrant. Ces élèves-là sont concernés par la problématique. Pour nous, c'est de plus en plus courant. Ce qui se manifeste, c'est l'inquiétude des professionnels qui entendent ces enfants ou qui voient leur comportement. Parce qu'en même temps, il y a une très grande immaturité éducative. Et donc, il y a tout ce décalage entre un accès à des images auxquelles ils ne sont pas préparés, et eux ont des comportements très enfantins, immatures. Ils se mettent même en difficulté, ils mettent les autres élèves en difficulté, et c'est là où les établissements nous interpellent.
Le premier établissement intéressé par cette expérimentation était le collège Jules Michelet à Angoulême. Mais dès les premières réunions, j'ai ressenti de fortes réticences au sein de l'équipe.
Oui, on est très étonnés. Parfois, j'interviens avec des classes fin primaire, élémentaire ou sixième.
Marie-Noëlle Chaban, sexologue.
Lorsqu'ils s'expriment, il y a déjà des informations qu'ils ont et dont certaines, on se dit, bon, à la limite, quand on parle sodomie, pour certains, ils connaissent déjà, pour d'autres, ben, qu'est-ce que c'est? Il y a des niveaux de connaissances très, très divers, mais c'est vrai que tout ce que tu connais, Ovidie, l'apparition du téléphone portable notamment, qui fait qu'ils ont des accès très, très tôt à des informations, à des contenus, à des vidéos dont les parents ne soupçonnent même pas. Et je crois qu'il y a vraiment ce décalage entre l'idée qu'on se fait des jeunes aujourd'hui qui sont un peu encore des anges, hein, et en fait, ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est une réalité, c'est absolument générationnel, et là, aujourd'hui, on est en train de toucher ça du doigt, mais je pense qu'on n'a pas idée, parce que je pense que les adultes aussi, des fois, ils ne veulent pas voir.
Ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que j'avais beau avoir l'accord de l'éducation nationale et toutes les compétences requises, mon seul nom était susceptible de faire paniquer les équipes. C'est là que l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique est entré dans la boucle en tant qu'association porteuse de la mission. Mais il allait encore nous falloir près d'un an avant de rencontrer nos premiers collégiens.
C'est le truc qui fait que tu vas te marier, putain. Il connaît pas une donne.
Je pense que la pornographie, le mot, effraie. On a quand même réussi à faire un travail d'équipe. Mais
Caroline Vézilier, infirmière
scolaire. Pas une équipe complète. Vraiment le thème déjà, la pornographie sur ce public de collégiens qui ont 13-14 ans, en fait, certains professeurs pensaient que ça ne les concernait pas. Et puis l'autre point, c'est vrai, alors c'était par rapport aux intervenants, le fait d'Ovidie, ça a pu questionner aussi. Pour être honnête, voilà, le fait d'introduire une ex-actrice de films pornographiques dans un établissement scolaire, il a vraiment fallu avoir une conversation.
C'est dingue, ouais. Ça. Malgré, enfin, c'est un peu réducteur de limiter une femme à la sexualité qu'elle a pu avoir il y a 20 ans. C'est quand même assez effrayant, non?
Alors pour ma part, ça veut dire qu'il faut autant travailler sur les représentations des adultes et de la sensibilisation de tout le corps enseignant et autres professionnels que sur la sensibilisation des enfants. Et qu'on se rend compte, quand on intervient au milieu scolaire depuis un certain temps, que les freins, parfois les plus compliqués à lever, sont ceux de la hiérarchie et de tout un système où on se rend bien compte qu'il faut y aller vraiment step by step, parce que ce sont des sujets qui sont hyper sensibles et que après, une fois qu'on a un pied, c'est beaucoup plus facile. Ça demande au départ à montrer patte blanche, ça demande à être reconnu par rapport à son savoir-faire, ses compétences, son professionnalisme et tout ce genre de choses.
Est-ce que parfois on se cache pas derrière les parents alors que finalement la plupart d'entre eux sont plutôt demandeurs?
Non, je crois pas. Non, on peut pas faire une généralité comme ça, mais il y a quand même certains parents qui sont vraiment hostiles. Pour en avoir rencontré, dans le cadre d'une réunion, on était en groupe d'infirmières et on parlait d'intervention sexualité dans le premier degré, donc c'était chez les CM2. Et vraiment, là, l'hostilité des parents, on l'a bien ressenti. Enfin, ils nous ont bien exprimé leur désaccord, voilà, sur un public d'enfants de 10 ans. Mais je pense que ce serait intéressant d'échanger avec eux parce qu'ils se trompent par rapport au contenu.
Et puis aussi, je crois qu'ils ont peur que ça leur donne des idées. Parce que justement, ils n'auraient pas ces idées-là. Et le fait d'en parler, ça risque d'induire des idées, des pensées, des comportements auxquels ils n'auraient pas pensé avant. Il y a cette idée aussi est-ce que ça ne serait pas incitatif? Est-ce qu'on ne va pas les pervertir, entre guillemets, avant qu'ils aient l'âge? Alors à quel âge on peut parler sexualité? En sachant que la sexualité, elle est omniprésente dans les médias, partout. Donc je crois qu'il y a aussi ces idées que la sexualité, finalement... Alors d'abord, c'est pas souvent l'affaire des parents, c'est pas à eux d'en parler. Alors en fait, personne n'en parle. Tout le monde a peur et personne n'en parle. C'est un peu, voilà, mettre le loup dans la bergerie, hein, en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup d'affect, en fait, dans tout ça. Il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de peur. Et en fonction de l'histoire personnelle de chaque individu, homme ou femme, parent donc, mais personne avant tout, ça vient forcément chercher des choses qui sont parfois pas simples.
En janvier 2018, Madame Lombard, la principale adjointe du collège Puy-Grelier, en périphérie d'Angoulême, prend contact avec moi. L'idée était de mettre en place des ateliers d'écriture scénaristique avec les classes de 4e. Le premier rendez-vous se passe bien, et puis, plus rien. Aucune nouvelle durant plusieurs semaines. Au final, les parents d'élèves organiseront une réunion d'information. Mais toujours pas le moindre contact avec les élèves. Let's go!
À l'occasion de ce café des parents, vous aviez convié l'ensemble du personnel aussi de l'établissement. On a eu une jeune professeure qui est venue y assister. Pourquoi ils ne sont pas venus, les autres ?
La pornographie est un sujet de tabou.
Madame Lombard, principale adjointe du collège Puy-Grelier.
C'est un sujet qui fait peur. Moi, j'en ai parlé avec des enseignants qui ont refusé d'y assister parce que derrière ça, il y a toute une représentation personnelle qui est trop compliquée pour eux. Nous avons effectivement des enfants qui sont sur le questionnement, qui sont peut-être un peu bêta hein, à cet âge-là, d'attitude ou d'onomatopée ou de choses qui vont dans un sens pas naturel, mais d'une sexualité un peu étrange.
Il y a un débat, mais à partir de quel âge est-ce qu'il faudrait leur en parler, de tout ça ? Là, on a vu un groupe de lycéens du LISA, du lycée l'image et du son. Je leur ai posé la question de à quel âge ils avaient vu pour la première fois des images pornographiques. Bon, unanimement, c'était 9-10 ans.
9 ans, c'est primaire, quoi. Et je crois que ce qui est important, c'est informer les parents. C'est pas informer les enfants. Arriver à un moment à leur dire « Attention, votre enfant est capable de... » Donc, faites attention à ce qu'il fait. Non pas que les parents ne veulent pas le faire, mais les parents ne savent pas. Moi, nous, c'est ce qui nous a le plus choqués. En fait, le professeur qui était présent, il est arrivé en salle des profs en disant oh, « Mais tu te rends compte, ma fille qui est en 4e ou mon fils qui est en 4e ?» Et alors, ça a fait le tour de la salle des profs. En fait, tous les profs se sont même inquiétés pour leurs propres enfants. Donc, voilà, c'est important que les parents sachent et en parlent avec leur enfant. Parce que les enfants, pour nous, il arrive un moment où on peut les éduquer. Mais c'est une éducation qui doit être fine, qui doit être adaptée, qui doit être faite par des professionnels. Nous, on ne sait pas faire ça sur la pornographie. On ne sait pas. Après ça, d'une manière...
Ça s'est posé entre nous, quand même.
Entre nous, oui. Mais,
Et ça ne s'est pas fait.
Non, non, non. Je pense qu'il faut des vrais professionnels. Il faut... Des psychologues qui interviennent, des professionnels qui peuvent impacter, qui ont les mots justes, parce qu'on a affaire quand même à des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Ce sont des jeunes enfants. Toute la finesse des choses, elle est là. Elle est le bon mot, le mot juste pour parler de pornographie. Et ça, c'est un art.
Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais...
Comme un compliment, parce que vous en parlez très bien.
Oui, mais n'empêche, on ne l'a pas fait.
Non, mais bon... Il y a un temps pour tout, hein, et puis je pense qu'il faut aussi un cadre qui soit défini. Nous, dans un premier temps, c'est les parents. Donc on ouvre le collège aux parents. C'était quand même un café parents. Donc voilà, la porte s'en trouve. Il faut savoir la saisir, enfin ne pas la refermer, quoi. Voilà.
Bonjour à tous. OS l'association a imaginé, créé et distribué le premier médicament anti-préjugé, le Préjugix 200 mg. Cette initiative a permis à OS l'association de rencontrer plein de personnes, des associations et des partenaires qui ont soutenu le projet. Aujourd'hui, OS l'association souhaite créer une nouvelle boîte, le Préjugix 400 mg. Ce nouveau Préjugix traitera de 15 nouveaux thèmes et sera rédigé à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Un appel à projet est disponible sur préjugix.com pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Il n'y a pas qu'en milieu scolaire que j'ai rencontré des réticences.
Le cahier des charges est simple. Les thèmes que vous proposez.
Au mois de mai 2019, l'association OS me demande de rédiger, gracieusement et en urgence, une notice pour leur projet Préjugix, le médicament anti-préjugés. Ce que je fais avec toute ma bonne volonté. Mais même cette notice-là a bien failli ne jamais voir le jour.
Au champ sanitaire et social.
Le Préjugix, en fait, ça se présente sous la forme d'une boîte de médicaments avec le même principe, c'est-à-dire que on a des indications dans la notice sur comment prendre Préjugix, consommer sans modération, les contre-indications, aucune à ce jour. Voilà.
Nathalie Hugonink, déléguée départementale au droit des femmes et à l'égalité.
Le fait qu'il y ait des effets indésirables tels que la tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, la liberté de conscience, le mieux vivre ensemble, valoriser ce qui nous rapproche et se préserver du cynisme. Voilà, donc c'est une association qui s'appelle OS. Voilà.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la notice Préjugix, sur les 16 notices qui sont dans la boîte, je crois que c'est la seule qui a failli être bloquée, qui a failli même ne plus apparaître du tout, parce que justement, ça traitait de sexualité au pluriel, et se poser la question de la cible. Qui allait pouvoir ouvrir Préjugix ? Alors ça va des EHPAD jusqu'aux écoles primaires, visiblement, et la possibilité que des élèves d'école primaire puissent avoir Préjugix entre les mains, ça avait mis en péril cette notice sexualité. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est la question de la sexualité quand même qui crispe. Alors il y avait quelques préjugés traités comme « si je n'accepte pas de faire ce qu'il veut, il va me balancer sur les réseaux sociaux. Envoyer des photos de son corps sur Snap, c'est vraiment pas grave, ça disparaît. C'est aux garçons de prendre les choses en main, c'est dans leur nature. » J'ai vu son profil, elle change tout le temps de copains, cette meuf ne se respecte pas. Et puis derrière, il y avait un certain nombre de pistes de réflexion. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pistes de réflexion du type enseigner au plus tôt aux enfants et adolescents la notion de consentement, rappeler à chacun ses droits et ses devoirs, etc., tout ça, ça n'avait pas fait débat. En revanche, les préjugés à l'origine n'étaient pas du tout ceux-là. Ils étaient plus en cohérence finalement avec les craintes et préjugés formulés par ces élèves-là, mais ça a été remanié, reformulé de façon à ne pas heurter, mais je crois pas le public, en fait pas le jeune public, mais plutôt les partenaires éventuellement Préjugix ou les établissements qui allaient accueillir la boîte de Préjugix. Donc ce qui fait que ça, c'est peut-être mon petit regret, c'est que ce projet, il est génial, mais ces quelques phrases, ces quelques préjugés, ils ne sont pas si conformes que ça vraiment aux préjugés des jeunes, quoi. Donc on voit bien qu'il y a quand même encore ce décalage entre les adultes et les ados sur les questions de numérique. On l'a bien vu à ce niveau-là, quoi.
Peut-être que ça paraissait peut-être un peu trop trash.
Centre de documentation pédagogique, ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. Alors, je vous le recommande.
Lisez-nous le titre,
oui,
pour la radio.
Tous à poil.
Tous à poil.
Je vous le recommande. C'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de textes. Vous êtes là-dessus, il n'y a pas beaucoup de textes. Mais ça. Alors voilà, à poil. Non, mais je vous assure, on ne sait pas s'il faut sourire, mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors vous voyez les dessins, voilà. Donc on tourne les pages. À poil le bébé. À poil la babysitter. À poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs, à poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général, bah oui, bien sûr.
On a quand même du mal à comprendre, tous à poil ne figure pas, il faut quand même le dire pour les téléspectateurs, sur la liste des livres qui est officiellement proposée aux enseignants par le ministère. Il n'est en tout cas pas sur la liste du portail et du SCOL. Alors pourquoi cette polémique ? En quoi ce livre est-il gênant ? Il n'est pas sur la liste.
Mais si, c'est intéressant. Vas-y.
Non, j'ai rien dit.
Explique-nous. Yama, s'il vous plaît.
Je vais le dire. Elle a dit les positions.
S'il vous plaît. Toi, t'aurais trouvé utile de parler des positions dans un aspect pratique de la sexualité?
Peut-être que ça nous prépare. Oui, il est de chercher sur Google, enfin voilà.
Ok, au lieu de chercher sur les films porno.
Voilà.
Les positions, un truc comme ça, c'est pas le
Karma Sutra.
Il y a ce qui se passe en réalité dans la classe, il y a ce que les élèves en retiennent, et après il y a ce qu'ils vont en dire à leurs parents. Comment ça se trouve, le gamin est en train de nous dire « Ah dis donc, il y a quelqu'un qui est venu nous parler de porno aujourd'hui à l'école. » Ah bon ? Ok.
Diane Saint-Réquier, intervenante en santé sexuelle et fondatrice de la plateforme Sexy Souci.
Des fois, l'état dans lequel les jeunes vont être quand on arrive pour faire notre animation, il peut être différent en fonction du nom qu'on a donné à la séance. Selon les établissements, ils vont appeler ça « prévention sida ». Ou alors, ils vont appeler ça « cours sur la sexualité », etc. Donc en fait, rien que ça déjà, ça va les mettre dans un état d'esprit qui sera différent. Mais du coup, c'est, je pense que c'est une partie de l'attention, elle se joue là-dedans aussi. Elle se joue dans peut-être mieux informer les familles sur c'est quoi le projet pédagogique en fait derrière. C'est développer l'esprit critique, l'empathie, l'estime de soi. C'est ces choses-là qui sont en jeu aussi, aussi derrière, mais si on l'explique pas forcément et qu'ils entendent juste « Ah ben on est venu me parler de porno à l'école », ils sont là « Oh là, est-ce que vraiment c'est le rôle de l'éducation nationale ?»
Cette éducation aux sexualités, Diane la poursuit jusque sur le territoire du numérique, comme ici sur France TV Slash, où chacune de ses vidéos génère plusieurs dizaines de milliers de vues.
Donc le porno, c'est qu'un média parmi d'autres, pas exemplaire en matière de représentation sexiste, mais pas pire. De là à dire que ça inciterait à la misogynie, ce serait considérer que certaines pratiques sexuelles seraient forcément et intrinsèquement misogynes. Sauf qu'une femme, elle peut prendre son pied en étant dominée, avec une levrette claquée, une double pénétration ou une gorge profonde. Pourquoi pas ? Le principal, c'est qu'elle en ait envie. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a aussi plein de pornos alternatifs qui est complètement différent. Féministe, queer, gay, lesbien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour moi, la difficulté, elle vient surtout des adultes et pas tant des jeunes, en fait, parce qu'ils en parlent assez facilement, je trouve, de leurs habitudes numériques. Ça fait partie de leur vie, en fait, donc c'est pas en parler, ce serait vraiment très bizarre, en réalité. C'est là où se passe pas mal de leurs interactions, c'est là où se fait leur consommation de médias, que ce soit du porno ou pas, d'ailleurs, hein, mais... En fait, c'est impossible de pas l'aborder. Mais au niveau des adultes, il y a une forme de panique. On pourrait dire panique morale sur le cas de la consommation de porno, mais de panique tout court, quoi. On comprend pas exactement ce que font nos enfants, on va dire entre guillemets. Ils comprennent pas forcément très bien comment ça marche Snapchat, qu'est-ce que c'est TikTok, qui va dessus, pourquoi, comment. Enfin, les ados, en fait, ils ont bien conscience du regard que les adultes ont sur leur utilisation du numérique. Et ça les agace, en fait, parce qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour plus bêtes qu'ils ne sont, on va dire. Alors que eux, ils ont quand même la sensation d'être assez experts dans leur façon d'utiliser ces outils-là. Et du coup, ce regard un peu abêtissant, ça les agace. Et je pense que ça crée une barrière pour pouvoir échanger de manière plus horizontale, on va dire, sur ces questions-là.
Hi, bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Youpi ! Aujourd'hui on va faire une vidéo pépitos, une vidéo que je n'ai jamais fait, que je suis trop contente de faire. Aujourd'hui je viens vous montrer mes memories sur Snapchat. J'ai un Snap public, donc que je vous donne tout le temps, où je poste des stories quelques fois et tout. Il n'y a jamais de trucs choquants, quoi. Parce qu'en fait j'ai aussi une dark side de Snapchat avec mon Snap privé que seulement mes amis ont, en fait, c'est vraiment ma vie privée. Bon voilà quoi, il y a des trucs que je n'ai pas envie que tout internet voit. Vu que bah, j'ai aucun ego, aujourd'hui je vais vous montrer ce côté privé de ma vie privée. Il y a des pépites, il y a surtout des affiches de mes potes, donc du coup bah désolé, mais il faut faire des vues. On va bien se marrer, c'est parti. Donc pour le premier, un petit aperçu de Lolo et moi quand on sort de cours à 19h30. Dans le métro sans aucune pression. Ça c'est de behind the scenes de la vidéo que j'avais filmée pour le jour de l'an, je vous la mets juste ici, de comment organiser une bonne soirée. En gros c'est on a filmé la vidéo et puis après bon bah on a bu l'alcool qu'il y avait sur les tables, quoi. C'était l'hiver dernier, donc c'était à Megève en plein décembre, mais il y avait que de la neige sur la piste, quoi. Autour de c'est de l'herbe. Mon dieu, je peux pas, il y a des trucs que Laure elle me tuerait si je les mettais. Du coup je le ferais pas, mais enfin je le ferais pas. Non attends. Alors ça c'est honteux quoi. Honteux. Moi mes potes avant de partir en soirée, quand on se fait un shot, je sais pas pourquoi je me sens l'obligation de filmer comme une débile. Et on dit un truc, j'ai jamais su ce que c'était quoi. J'ai jamais su. Ça c'est quand je suis restée bloquée devant chez moi pendant 3 heures et du coup je suis allée dormir chez Chloé. Parce qu'en fait on tournait juste la clé dans le mauvais sens. Et c'est un petit kangourou en Australie. Oh là là. Il me manque ces petits kangourous. Alors ça, ça c'est une belle petite. Donc j'ai acheté une poche à eau pour mettre mon rosé dedans et le boire en allant au festival. Non, je vais bien, je vais bien. Oh putain.
Je trouve que cette phrase, le porno c'est pas la réalité. Déjà premièrement, je trouve que c'est un peu prendre les jeunes pour des idiots, une fois de plus, malheureusement. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de regarder un film. Alors parfois, il y a des choses qui peuvent brouiller le message. Effectivement, quand on regarde du porno amateur ou des choses comme ça, ça peut brouiller. En attendant, ils savent qu'ils sont en train de regarder un film et qu'ils ne sont pas en train de regarder les voisins en train d'avoir des rapports par la fenêtre. Deuxièmement, ce n'est pas la réalité. Ah bon, bah pourtant, ce sont des vraies personnes qu'on voit qui sont en train de faire un vrai acte sexuel, c'est-à-dire qu'il est non simulé. C'est le propre d'ailleurs des films pornographiques, c'est d'avoir la sexualité non simulée. Et ça ne représente pas des pratiques réelles. Bah, en fait, si. Alors, ça dépend des films, ça dépend des personnes. Mais je trouve que c'est un peu rapide de dire ça. Parce qu'en fait, on est en train de dire quoi ? On est en train de dire qu'il y a une sexualité qui est réelle, slash, en réalité, ce qu'on dit, c'est une sexualité qui est acceptable, ou qui est correcte, ou qui est la bonne, et qui n'est pas celle qu'on verra dans les films pornographiques. Ah bon ? Et d'autre part, voilà, la sexualité qu'on voit dans les films pornographiques et qui est mauvaise, qui est problématique, qui ne peut avoir aucun lien avec ce qu'on a comme pratique dans notre vie à nous. Je trouve que c'est un peu rapide, en fait. Après, ça m'est arrivé de parler de trucs, par exemple, de comment ça peut se passer un tournage de film porno, sur le côté vraiment, bah, y a quelqu'un en train de prendre le son, y a du maquillage sur le corps, bah, des fois, ils font une pause sandwich, voilà. C'est des vraies personnes, en fait, hein, voilà. Moi, ce serait plutôt ramené à cette dimension-là, en fait, que j'aurais tendance à faire. Après, rappeler que c'est une représentation, c'est une chose. Mais moi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de questionner les représentations qui peuvent être véhiculées par certains pornos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui est le plus fréquent ? Ah bon, pourquoi on voit plus souvent une fellation qu'un cunnilingus ? Voilà, interroger ça, plutôt que d'arriver avec mes gros sabots d'adulte et dire « Vous savez, les enfants, c'est pas la réalité !» Ok, bon, à 15 ans, ils sont là, bon, ok, merci madame. Voilà quoi. Ce qui est intéressant, justement, c'est de venir les questionner et de voir qu'à ces interrogations qu'on peut leur lancer, ben, en fait, ils et elles vont avoir des réponses différentes et ça peut générer du débat et ça peut générer des trucs intéressants.
Est-ce
en fait.
Que le visionnage d'un porno peut aider à préparer cette première fois ? Réponse numéro 1 ! Carrément, tout est très bien expliqué. Réponse numéro 2, pas du tout, c'est que du fake. Réponse numéro 3, Allez-y. C'est fini, on monte sur le petit carreau. La 2, la 2.
La 2, la 3.
3, 2, 3. Alors vous vous mettez.
Je pense que l'application de la loi aujourd'hui, qui est toujours, on sait très bien, pas appliquée, hein, au moins 3 séances d'éducation à la vie affective et asexuelle depuis le début de la scolarité jusqu'au bac, un truc comme ça, c'est un strict minimum si on veut avancer sur des sujets qui ensuite vont se répercuter de manière plus large dans la société. Parce qu'en fait, les questions de sexisme, les questions de harcèlement qu'on peut retrouver après dans le milieu professionnel, de harcèlement de rue, de violence conjugale, toutes ces choses-là, elles sont nourries par ça, en fait. Elles sont nourries par ça, par comment on interagit entre nous, comment on se parle entre mecs et entre meufs aussi. Et ça, on ne peut pas espérer agir là-dessus en faisant une séance de sensibilisation de 2 heures une fois dans la scolarité. C'est impossible. Disons que c'est comme jeter une graine d'un avion comme ça et se dire « Bon, ben, on croise grave les doigts et on espère que ça va prendre, quoi. » Effectivement, si on est à côté, je continue ma petite métaphore maraîchère, mais si on est à côté du champ qu'on peut biner et planter plusieurs graines d'affilée, ben, on a plus de chances que ça porte ses fruits, effectivement. Et puis l'autre écueil Il y en a qui peuvent se dire « Oh là là, il faut qu'on aille droit au but et au plus important, il faut éviter les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, donc on va parler de ça ». Ok, bon bah du coup, on n'a pas parlé ni de plaisir, ni de désir, ni de consentement, ni de couple, ni de rien en fait. Et déjà, les deux heures, des fois, il faut les arracher. Ça demande d'avoir du suivi, mais ça demande du financement et ça demande de la volonté politique.
Duh.
À 300 dans une salle bondée, des militants qui n'ont raté quasiment aucune manifestation l'an dernier contre le mariage pour tous et qui veulent aujourd'hui faire reculer le gouvernement sur les ABCD de l'égalité.
Je suis professeure des écoles de métier, toutes les manifs pour tous, j'y étais à chaque fois. Donc je pense qu'il faut vraiment être tous très très bien formés et informés pour faire barrage à cette ABCD de l'égalité.
Je pense que c'est naturellement qu'un homme est plus attiré vers une voiture qu'une femme. Je vois pas pourquoi il faudrait essayer d'effacer et faire porter des robes à des garçons.
La manif pour tous a fait venir 6 experts pour ce débat, parmi eux un psychanalyste, une sexologue et une juriste, pour convaincre un public conquis que les ABCD sont une dérive idéologique dangereuse. Anne-Marie Le Courriette.
C'est un programme autoritaire, totalitaire, qui tente à laver les cerveaux des enfants. C'est le plus contraire possible au principe de la démocratie libérale.
Bad guy. Duh.
À l'époque, ça s'appelait les ABCD de l'égalité, là, et où il y a eu toutes les fantasmes pas possibles qui sont sortis de « on va apprendre à nos jeunes à se masturber ». Alors rassurez-vous, vos jeunes ne nous ont pas attendus pour se masturber, hein, vraiment. Et puis surtout, évidemment, qu'il n'est pas question de parler de masturbation à la maternelle. Mais on voit quand même que là, on touche à un truc qui est très très compliqué.
Oui, je vous en prie. Oui, il n'y a pas de problème. Je fermerai devant avec les derniers visiteurs et puis je fermerai le parking derrière. Ça marche, c'est noté. Je vous en prie, au revoir.
Bonne nouvelle, le collège Jules Michelet me recontacte pour me proposer des dates d'intervention. Honnêtement, je n'y croyais plus. Cette victoire, je la dois à la principale, Pascale Lahaye.
Je n'ai découvert que récemment le fait que la pornographie était en accès libre sur Internet depuis 2006. J'avoue que je l'ignorais, je ne m'étais jamais posé la question. J'ai 58 ans, je suis chef d'établissement, je suis dans l'éducation nationale depuis X années et ça ne m'avait jamais atteint le cerveau. Donc j'imagine que nécessairement d'autres personnes sont dans la même innocence ou ignorance et que du coup nécessairement il doit y avoir un décalage, effectivement. Entre ce que les élèves voient, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils pensent, et ce que l'on pense qu'ils voient et qu'ils pensent. Pour ma part, avant cette année scolaire, j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas, parce que c'était tellement interdit, la diffusion de la pornographie, qu'on ne pouvait pas y accéder. Donc oui, ça illustre bien le décalage. Eux pensent que c'est naturel, c'est normal et c'est pas interdit. Et moi, je pensais, et donc j'imagine qu'une grande partie de qui continue de penser que, de toute façon, c'est pas possible. Du porno, c'est illicite. Je sais pas comment on fait pour avoir du porno, mais c'est illicite quand on est mineur.
Oh putain. Voilà, on peut avec le snap le plus insupportable de l'année. Je suis désolée, j'ai passé l'été à dire cette phrase. Vous pouvez me jeter des pierres si vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore plein de pépites de mon snap si vous voulez. Donc mettez un pouce vert. Si cette vidéo atteint les 20 000 likes, je posterai la deuxième vidéo avec plaisir. Dites-moi lequel vous a fait le plus rire, si vous ont fait rire. Sinon, bah dites rien s'il vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye.
Et le cheminement individuel que j'ai fait pour arriver jusqu'à la décision de oui, il fallait faire quelque chose sur ce thème-là, a dû être suscité et accompagné également dans la communauté adulte du collège. Et donc, ça n'a pas forcément été très simple. Faire des actions pour lutter contre l'usage des produits licites, la lutte contre la discrimination homophobe ou raciste, ça fait consensus. Même si dans les faits, il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord, mais officiellement, tout le monde est d'accord. Le thème de la prévention, l'accompagnement, la protection de nos enfants par rapport à ce à quoi ils sont exposés, il faut du temps, il faut s'en rendre compte avant que ça fasse consensus. Typiquement, aujourd'hui, à Jules Michelet, globalement, ça fait consensus. Mais il nous aura fallu l'année scolaire. Les choses se sont faites Et je n'ai pas demandé l'avis des parents. J'ai informé les parents. Ceci s'est passé pendant le temps scolaire. J'ai donc informé les parents que ce jour-là, pendant le temps scolaire, un travail autour de ces thèmes-là serait mis en œuvre et qu'il s'inscrivait dans le cadre de la réglementation à l'éducation nationale sur l'éducation à la sexualité. Et les quelques parents que j'ai pu avoir au téléphone ces jours-ci, qui s'inquiétaient de savoir, parce que beaucoup de choses dans le planning avaient été bouleversées en cette fin d'année scolaire pour des questions de brevets des collèges, ah oui, ça c'est bien. Donc les quelques rares parents qu'on a pu avoir sont a priori ravis que, qu'on travaille ce thème-là avec leurs enfants.
Hélène, vous pouvez me passer la chaise, s'il vous plaît ? Ah bah pas de problème, vas-y, prends-la. Merci. Est-ce que, à ma question, Hélène a répondu oui ?
Non,
bah,
oui.
Bah, oui. Bah, oui. Bah, oui. Oui, elle a dit oui. On peut dire que le consentement, on est d'accord, c'est souvent quand on exprime un oui,
oui.
Mais
ah, oui.
Clair. Oui. D'accord, là, est-ce que vous avez trouvé que c'était clair ?
Bah oui.
Oui,
ouais,
oui,
d'accord. Ok, encore. Hélène, j'aimerais avoir la chaise, s'il vous plaît.
Oui, pourquoi pas.
Vous êtes sûre, Hélène?
Oui, oui.
Parce que j'en ai vraiment besoin, après je la rends plus.
Oui, pas de soucis.
Sûre?
Oui.
Ok. Hélène, j'ai l'impression que vous vous accrochez un peu à la chaise. Moi, j'en ai vraiment besoin, donc c'est soit vous me dites oui, soit vous me dites
non. Non, non, allez-y, prenez-la.
D'accord, sûre. Non, Hélène, il faut savoir, hein, vous dites oui, c'est oui, d'accord?
Je sais pas trop, en fait.
Bah, qu'est-ce que je fais, moi, alors, avec ça?
Qu'est-ce qu'on fait d'après vous?
Bon, on cherche une autre chaise.
On va chercher une autre femme, de la vérité.
Alors, la réglementation à l'éducation nationale est très claire sur le nombre d'heures ou le forfait d'heures, je dirais, pour parler simplement, que les élèves doivent avoir en ce qui concerne l'éducation à la sexualité. Mais on voit bien qu'on touche là un champ et un domaine qui est extrêmement vaste. Une grande partie est prise en charge dans le cadre des programmes d'enseignement de SVT, notamment en classe de 3e. Ça fait partie de ce quota horaire. Tout ce qui relève de l'accompagnement autour de l'éducation, je dirais, affective, hein, est parfois difficilement tenable. Si on décide que c'est la priorité absolue, on le fera. Pour autant, cela vient un peu en concurrence avec les autres priorités absolues ou les autres recommandations qui nous sont faites et qui sont tout aussi fondées, d'éducation au respect environnemental, d'éducation à la sécurité routière, d'éducation à la lutte contre les discriminations et au respect des valeurs républicaines qui sont censées nous souder tous et sont censées souder aussi nos enfants, le pays de demain. Donc, elles sont tenables si on décide d'en faire la priorité numéro un. C'est compliqué de tenir ses obligations parce qu'on gère les priorités.
Est-ce qu'on demande trop à l'école ?
Bonne question. Est-ce qu'on demande trop à l'école ? On demande beaucoup à l'école. De plus en plus, on demande aux enseignants d'intégrer dans la façon dont ils déclinent leur programme tous ces autres domaines d'intervention qui sont la sécurité routière, qui sont la lutte contre la discrimination, par le biais de leur programme. Mais on arrive peut-être parfois à la limite des compétences que les professeurs ont le sentiment d'avoir. En fait, ils les ont, mais ont le sentiment d'avoir. Mais des années de lumière ont déjà été parcourues de ce point de vue-là, entre ce qu'un enseignant pensait devoir faire au début des années 80. J'étais enseignante au début des années 80. Sincèrement, je n'étais que professeur d'anglais et je n'enseignais que l'anglais, point trait. Jamais je n'ai pu penser que je devais prendre en charge d'autres choses. Donc en fait, qu'est-ce qui pourrait servir à ce que ce soit plus pris en compte ? Ben, c'est tout ce qui relève de l'accompagnement et de la formation des enseignants. Et là, on s'inscrit dans le moyen voire le long terme, puisqu'on parle de formation initiale avant qu'ils rentrent dans le métier et d'accompagnement et de formation tout au long de leur carrière.
Moi, je voulais dire que, ben, en fait, soit ben, on nous prend pour un homme des cavernes parce que, ben, on dit on a des poils, enfin voilà. Ou alors, ben, en fait, on nous prend vraiment pour la bombasse qui, ben, après, on se fait traiter de salope parce qu'on est trop féminine ou ceci ou cela. Soit, en fait, on n'est pas assez féminine, soit on l'est trop. Et en fait, la société nous dit, ben, enfin, juste au milieu, vous êtes à la fois homme des cavernes et à la fois, ben, bombasse des trottoirs, quoi. Bah oui, bah voilà, on peut dire aussi, sinon bah, ok, vous êtes salopes, bah, voilà. Mais non, enfin toutes les filles de la salle, bah vous faites ce que vous voulez, épilées ou pas, les cavernes, bon bah on s'en fout clairement. Voilà. Et les hommes, bah restez comme vous êtes, on s'en fiche aussi.
Les normalités de genre, ça sert à rien.
Clairement, voilà.
Mais c'est clair que en tant que d'abord jeune fille, après en tant que femme, c'est vrai que c'est compliqué parce que on est toujours sur cette espèce de corde raide avec cet équilibre très fragile. Qui fait que si on n'en fait pas assez, si on ne se conforme pas assez aux normes, mais là, au-delà de l'épilation, je dirais aux injonctions sexuelles en général, si on ne fait pas ça, ça, ça et ça, et ben on est prude. Et d'un autre côté, si on aime un peu trop faire ça, ça, ça et ça, ben tout à coup, on bascule du côté de la salope. C'est très compliqué. C'est un équilibre très fragile. Et je ne vous apprends rien qui concerne essentiellement les femmes et beaucoup moins les hommes. Évidemment, on ne va pas dire d'un homme qu'il a trop de rapports sexuels, on ne va pas dire d'un homme qu'il est trop prude. Alors j'en profite juste parce que nous sommes donc rejoints par Thomas Romer qui est... tu sais quoi Thomas, je vais te laisser te présenter.
Bonjour, désolé pour mon retard, j'avais des petits soucis à la gare d'Angoulême. Je m'appelle Thomas Romer, ça fait 15 ans que je travaille sur toutes les questions de protection de l'enfance et des ados dans les univers numériques. Et notamment, ces dernières années, je m'intéresse beaucoup à l'impact et à la réflexion autour de l'impact des images et des contenus.
Au final, le collège me calera une intervention les deux derniers jours de l'année scolaire, juste après le brevet. Je n'interviendrai pas moi-même. Je laisserai l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique prendre le relais sur l'organisation avec une compagnie de théâtre forum.
Là, on a commencé à travailler ensemble avant la rentrée 2018, on va dire septembre 2018, sur cette action de prévention concernant les sexualités numériques, donc ici sur le département de la Charente. Ça a été une année pas facile. En fin de compte, on a réussi, on a de belles victoires. Les séances de théâtre forum qu'on a fait avec les collégiens, c'est une belle victoire également. On a essuyé aussi quelques petites humiliations. Il faut admettre que c'est une mission qui a été vraiment compliquée à monter de par sa thématique.
Oui, ça a été une année riche en émotions.
Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique.
Même si ça a pris du temps, il a fallu convaincre, il y a eu des réticences, il y a eu parfois des points de blocage.
Je t'avoue que moi, il y a eu plusieurs moments où je me suis dit « je décroche, j'arrête, j'abandonne, c'est plus possible ». Je ne sais pas si tu te rappelles de cette CPE dans un collège. Cette CPE, pendant toute la réunion préalable, s'était tournée pour ne pas croiser mon regard, m'avait tourné le dos pendant toute la réunion et ne m'avait jamais adressé la parole directement. Tu te souviens de cette réunion un peu curieuse ? Et même dans les ateliers d'écriture scénaristique, je me souviens un jour, je t'ai appelé, je crois que c'était après la première ou la deuxième séance, je t'ai dit « c'est pas possible ». Je vais laisser tomber parce que je voulais travailler à l'écriture avec ces ados qui avaient très envie de travailler avec moi. Et j'avais trois chaperons en permanence. J'avais trois adultes avec moi qui croisaient les bras, me regardaient et me dépatouillaient avec ces ados. C'est pas comme si on m'avait laissé complètement carte blanche. Tenez, ce groupe d'ados a envie de travailler avec vous, on vous donne 2 heures par semaine. Non, c'était 2 heures surveillées. C'est comme si j'étais prof et que j'avais trois inspecteurs au fond de la salle qui m'observaient donner un cours. Ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et puis, il faut dire aussi qu'on a mis au moins 6 mois avant de croiser le premier gamin. C'est-à-dire, pendant 6 mois, nous n'avons fait que des réunions préalables aux réunions préalables des réunions préalables. On est passé de bureau à bureau, on est allé montrer patte blanche absolument partout. Mais il s'est passé, moi au bout de 6 mois, je me suis dit, mais je ne vais jamais voir un ado en fait. On est là pour faire de la prévention, on nous propose d'intervenir auprès des parents, on nous propose de faire de la formation auprès du personnel, mais on ne veut pas nous confier de gamins. Voilà. Donc moi j'avoue qu'il y a eu quelques moments où je me suis dit, on n'y arrivera jamais.
On est face à un système qui fait qu'ils ont énormément peur de la réaction des parents, en permanence, sur tous les sujets. Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt du côté du fantasme, peut-être par moment du prétexte, pour ne pas s'emparer des sujets. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé l'éducation nationale il y a très longtemps à passer le bébé au planning familial. Quoi. C'était « passe à ton voisin, je te passe la patate chaude », parce que franchement... Alors c'est un côté rassurant, parce que on se dit, quand on est les parents, on se dit bah, « c'est bien, au moins l'éducation nationale ne fait pas rentrer n'importe qui dans les établissements scolaires ». Aujourd'hui, ne serait-ce que pour un collège normalement constitué, faire intervenir un intervenant extérieur, même labellisé par le ministère, c'est censé être voté en conseil d'administration du collège où tout le monde siège. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça Et ça reste du coup assez lourd et en effet avec la nécessité dans les collèges pour les chefs d'établissement d'embarquer avec eux toute leur équipe parce que, et y compris souvent des associations de parents d'élèves qu'ils craignent plus que tout. Et une fois encore, sur ce sujet très particulier qui n'a rien à voir avec les autres, parce que, comme tu le sais, j'interviens également sur tout un tas d'autres sujets, j'ai même fait beaucoup de prévention sur la radicalisation, mais ça n'avait rien à voir. À côté, la radicalisation, c'était tranquille. Tranquille. Donc, ce sujet, j'en ai jamais rencontré d'aussi difficile. Et pas plus tard qu'il y a encore 3 semaines, j'avais des remarques encore du type « Mais monsieur Romer, on ne peut pas dire ou montrer ça dans le cadre d'un programme de prévention primaire parce qu'on va donner des idées aux enfants. » Donc, à ce moment-là, je pense que tout le monde comprendra que la conclusion, c'est d'arrêter toute prévention. Puisque si on donne des idées en faisant de la prévention, arrêtons de donner des idées, arrêtons de réfléchir et interdisons tout, et puis voilà.
Je vous ai fait parvenir un petit rapport d'étape pour vous dire tout ce qui avait été fait depuis votre départ, pour vous montrer qu'il s'était passé des choses. Donc moi, j'ai expérimenté les difficultés de terrain, mais à votre niveau, un niveau plus élevé, où est-ce que ça coince concrètement? Et pourquoi ça coince parfois?
Ça coince parce que c'est la France.
Xavier Zervinsky, ancien sous-préfet de la Charente.
Pour paraphraser un ministre des Affaires étrangères dans un autre temps, nous sommes un vieux pays qui a vécu beaucoup de choses positives comme négatives et qui est un peu conservateur. Dans un vieux pays, il y a des habitudes, il y a un certain nombre de corporations, il y a des institutions dans les institutions. Donc c'est vrai que ce mécanisme, des fois, est un peu kafkaïen aussi, il faut être honnête et lucide. Moi, le sentiment que j'en ai, c'est que si on est dans cette posture à attendre les circulaires, le territoire a le temps, lui, de dériver, les populations d'être abandonnées, les actions ne pas se faire et la situation se dégrader. Donc là, il y a un vrai enjeu, je pense, par rapport à votre action, ce que vous avez mené en Charente, à généraliser, parce que le sens y est, les relais, vous les avez eus, le retour d'expérience est extrêmement positif, et maintenant, c'est cette logique de bottom-up, en mauvais français, il faut que sur cette base-là, on puisse maintenant faire société et que collectivement, les institutions au niveau national s'en saisissent et la dupliquent. Je pense que c'est ça le bon sens de l'action telle qu'elle devrait se faire pour qu'à la fois il y ait ce dialogue intelligent entre Paris et les territoires.
C'était des adultes largués par le net. Avec Xavier Zervinsky, Béatrice Lehou, Marie-Noëlle Chaban, Caroline Vézigné, Nathalie Hugoninck, Diane Saint-Réquier, Pascal Lahaye, Thomas Romer et les élèves de 4e du collège Jules Michelet d'Angoulême. Documentation INA, Inès Barja. Prise de son studio, Claude Nior. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Nathalie Battus. Une série documentaire proposée par Ovidi.
LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au collège, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Bolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, des ados dans le Far West numérique. Mais en attendant, restez à l'écoute.